On y va. Bonjour. Voilà, on démarre l'émission de reprise de Comaguerre ce mardi 10 août 2021 avec la présence en technique d'Erika, que je remercie pour son intervention, et toujours avec ma complice Roselyne qui est à mes côtés. Voilà. Donc, en cette période, il y a un anniversaire classique, en cette période de la première semaine du mois d'août, la seconde, qui est l'anniversaire des deux bombardements atomiques. C'est bien comme ça? Voilà, je me rapproche un peu du micro. Des deux bombardements atomiques du 6 et du 9 août 1945 par les États-Unis d'Amérique, le premier sur Hiroshima et le second sur Nagasaki. Alors vous allez dire, pourquoi d'abord deux? Eh bien parce qu'ils avaient deux bombes atomiques de techniques différentes, je ne rentre pas dans les détails militaires, et comme ça, ils ont essayé les deux. Ils ont essayé les deux, comme ça, ils étaient à la tête de deux possibilités de tuer. Alors, le premier jour, apparemment, on est entre 100 et 150 000 morts à l'instant de la bombe. Le deuxième jour, un peu moins sur Nagasaki, on est autour de 70-80 000, et donc, ils sont à la tête de deux techniques de bombes atomiques, l'une au plutonium, l'autre à l'uranium. Je ne rentre pas dans ces détails-là. Donc ils ont la maîtrise totale, et c'est une maîtrise toute récente, puisqu'il faut savoir que le premier essai réussi d'une explosion atomique remonte au mois de juillet 1945 dans le désert du Nevada. Donc il y a eu une espèce d'urgence décidée par le président de l'époque, Harry Truman, d'utiliser cette arme pour démontrer, non pour pas faire capituler le Japon, parce que le Japon était déjà à genoux. Il faut se souvenir, par exemple, qu'avant le mois de juillet, il y avait déjà des bombardements quotidiens du Japon, non pas avec des bombes atomiques, mais avec des bombes incendiaires au phosphore, et qu'en une nuit dans la ville de Tokyo, une certaine nuit du mois de mars, il est mort plus de 100 000 Japonais sous les bombes au phosphore et des tamis. Donc, ce n'était pas la mise à genoux de l'Empire japonais, ce n'était pas un problème. C'était déjà fait, la décision sera prise un peu plus tard, mais c'était déjà acquis. Donc il s'agissait plutôt, et la suite des événements l'a démontré, il s'agissait de démontrer à la face du monde que les États-Unis avaient ce qu'on appelait à l'époque l'arme absolue, c'est-à-dire qu'ils étaient devenus invincibles. Et donc que toute guerre qu'ils entameraient, soit en utilisant la simple menace, en terrorisant les adversaires, soit en détruisant l'adversaire, de toute façon ferait d'eux les maîtres du monde. C'était ça la démonstration de Hiroshima et de Nagasaki. Il ne faut jamais l'oublier. Alors, il y a des gens qui entretiennent cette mémoire. Alors, je souligne quand même que vous savez qu'il s'est passé au Japon, il y a quinzaine écoulée, des événements n'ayant qu'un lointain rapport avec l'arme atomique. Vous avez tous, à l'occasion, regardé telle ou telle épreuve des Jeux olympiques. Et je tenais à souligner qu'il y a eu une demande d'un certain nombre d'autorités japonaises, en particulier les maires des deux villes sinistrées, mais d'autres, qui ont dit ce serait bien quand même que ces milliers d'athlètes qui viennent de tous les pays, qui représentent la fine fleur de la jeunesse mondiale, fassent juste une minute de silence pour se souvenir de cet événement, qui est un événement cruel qui a marqué le Japon profondément. Et le Comité olympique international a refusé. Il n'y a donc pas eu de minute de silence pour les victimes japonaises des bombardements nucléaires. Et donc les Olympiques se sont déroulés comme il était prévu par les médias, c'est-à-dire à la télévision. Vous savez que dans le budget du Comité international olympique, les recettes télévisuelles représentent plus de 70% de la recette. Donc au fond, qu'il n'y ait pas de spectateurs dans les salles, ça ne gêne pas beaucoup le Comité olympique international, puisque l'essentiel se passe à la télé. Un dernier mot sur les Jeux olympiques, c'est un budget annoncé de 15 milliards de dollars, ce qui n'est pas tout à fait rien, qui sera probablement, mais ce n'est pas une critique des Japonais parce que l'expérience olympique montre que, d'une façon générale, le budget initial des Jeux olympiques est toujours dépassé. Alors il y a eu des cas où il était dépassé dramatiquement, je me souviens de Montréal, mais c'est vrai que c'est assez facile que ça se déplace vers le haut. Et ensuite, bon, il reste souvent des collectivités locales qui doivent mettre de l'argent qu'il faut parce que leur piscine n'a pas été finie de rembourser, leur stade de ski, ça, ça. Bon, ça fait partie, disons, hélas, de la routine du Comité international olympique. Et dernier aspect qui est lui un peu plus géopolitique, si vous avez pris le temps, une activité comme une autre, mais c'est publié, le Comité international olympique publie un palmarès des Jeux avec un classement des pays, puisqu'on est dans le classement des pays. et donc qui donne par nombre de médailles un classement. Alors, il y a un double classement, je rentre un peu dans le détail quand même, un double classement, soit par les médailles d'or sur les premières, soit par le total des médailles. En gros, pour faire simple, la Chine et les États-Unis sont au coude à coude, puisque la différence de médailles d'or est de juste une, obtenue le dernier jour par les États-Unis, donc 88-87. Bon, un détail, mais ce qui est intéressant, c'est le classement du cinquième ou troisième. Dans le classement des médailles d'or, c'est le cinquième, et dans le classement global des médailles, c'est le troisième. Et ce troisième n'est pas un pays. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, le troisième, ça s'appelle le comité olympique russe. Parce que la géopolitique n'est jamais absente de ces grands jeux et de ces grands divertissements de masse mondiale. Le comité international olympique a considéré que les athlètes russes étaient tous dopés. Alors il est tombé sur un cas, il y en a d'autres ailleurs, on a vu d'autres athlètes dopés aux États-Unis, au Canada, partout. Mais là, comme ça faisait partie de la guerre médiatique qui est en cours contre la Russie, il a été décidé par le comité international que la Russie n'aurait pas de représentation, c'est-à-dire pas de défilé, pas d'hymne russe au moment où un russe avait une médaille d'or, etc. Donc c'était une attaque géopolitique contre la Russie qui n'a pas empêché les athlètes russes, qui sont venus quand même, que, comme tous les athlètes, ils se préparent pendant des années, ils ont des espoirs, ils sont très bons dans leur discipline, et ils n'ont pas de raison de dire « moi je ne viens pas ». Donc ils viennent, et ils ont glané un nombre très impressionnant de médailles, puis ils sont troisième au classement général, rien que ça. Derrière, donc, les deux premiers, Chine et États-Unis. On arrêterait là sur les Jeux Olympiques, on pourrait en parler beaucoup plus, mais je pense qu'il y a d'autres sujets plus larges, pour dire simplement que j'ai lu sur le site du Parti communiste japonais la journée d'un chauffeur japonais qui véhiculait les athlètes depuis les temps où ils étaient gardés, jusqu'au stade, disséminés ici et là, et regroupés à certains moments dans les grandes enceintes. La journée d'un travailleur de conducteur de bus donc, olympique, c'était donc en gros 1h30 pour arriver à l'endroit où il allait prendre des athlètes, 12 heures de travail ininterrompu de midi à minuit, et encore 1h30 pour rentrer chez lui, dans la lointaine banlieue de Tokyo. Donc il avait bravement travaillé 15 heures dans la journée pour un salaire ridicule. Ça, c'est les petits côtés de l'exploitation du personnel, mais vous savez que dans beaucoup d'initiatives publiques, pas grand public, fait de plus en plus. Alors là, le chauffeur a été payé. Le recours aux bénévoles est une activité maintenant très très importante, c'est-à-dire que toute collectivité locale, je ne suis pas par rapport à ça, tout à fait dans cette politique, fait appel à des bénévoles en disant ben, ils vont donner un coup de main, et finalement c'est la ville qui va tirer bénéfice, après la ville, les restaurateurs, les hôteliers et tout. Le bénévole sert de main-d'œuvre d'appoint, précaire, précairissime, j'allais dire, puisque zéro salaire, zéro protection sociale, pour permettre à d'autres d'engranger les recettes de ces événements médiatiques. J'en termine là-dessus et je reviens un petit peu sur Hiroshima, parce que comme bon, il n'y a pas eu de minute de silence aux Jeux Olympiques, mais il y a eu dans tous les pays, dans beaucoup de pays du monde, des manifestations en commémoration de cet événement dramatique. Et j'ai retenu pour vous témoigner, oui, un problème, j'arrive pas à lire. Il y a un problème dans la technique. Ne vous inquiétez pas, on va me passer le micro. Ah, le micro-bug, j'en change alors. Je peux passer au vert, au jaune. Qu'est-ce qu'il faut mieux, Erika? Le jaune? Ok. Voilà, excusez-nous, on change. C'est bon comme ça, Erika? Ça va? Plus haut? Comme ça? Nickel. Merci. Voilà, on est passé. Donc, micro jaune a remplacé le micro bleu, pardon aux auditeurs, mais c'est nécessaire. Alors, je vais lire quelques extraits d'un discours prononcé à Thessalonique, donc qui est la deuxième grande ville de la Grèce. Pourquoi Thessalonique? Parce qu'une partie de la grande ville, et puis d'autre part parce qu'Athènes a beaucoup de soucis avec les incendies, et donc la situation est très compliquée souvent parce que les incendies. À Thessalonique, ça a eu lieu. Il n'y a plus de problème. Comme ça, voilà, c'est au bon niveau. Merci. Voilà, Erika est venue me secourir parce que je n'étais pas tout à fait au bon endroit. Ça te va comme ça? Voilà. Alors, j'y suis. Donc, je reviens à Thessalonique et à Hiroshima. Et voilà ce qu'il dit le président du comité. Il dit des choses suivantes. D'abord, il rappelle que tous les gouvernements grecs, y sont autorisés, je souligne, n'ont rien fait pour éviter la militarisation de la masse, et le camp qui a jeté les bombes atomiques. Bien. Et il dit les choses suivantes. Aujourd'hui, nous vivons les conséquences tragiques et douloureuses de la politique criminelle de tous les gouvernements de la modernité. Cette occasion, nous exigeons des mesures immédiates pour soutenir les sinistrés et les structures sanitaires locales avec des personnels internationaux, une indemnisation totale et directe des biens des familles populaires, des mesures immédiates contre les incendies, inondations, la protection anti-sismique. Et concernant donc l'holocauste nucléaire, il déclare. 76 années plus tard, nous rendons beaucoup hommage aux 300 000 victimes innocentes de l'hostilité impérialiste et de l'intervention, le meurtre de centaines de milliers de personnes, 76 années durant lesquelles la propagande impérialiste s'obstine à tromper le peuple sur la Seconde Guerre mondiale. Avec cette horreur, les impérialistes américains voulaient faire plier l'esprit des peuples qui, ravivés par la victoire antifasciste, envisageaient. Avec un nouvel élan, ils ont continué la lutte pour leur libération nationale et sociale, le renversement du colonialisme et le renversement du colonialisme. Il ajoute, point de vue que je partage, c'est pour ça que je le lis, les puissants États impérialistes voulaient avant tout terroriser l'Union soviétique elle-même afin d'assurer leur suprématie à la table des négociations d'après-guerre et les relations de pouvoir d'après-guerre. Les bombardements d'Hiroshima et que les débuts d'une ère du terrorisme nucléaire aux États-Unis et leurs alliés. Ils ont continué en Corée, au Vietnam, dans toute l'Indochine, au Moyen-Orient, en Amérique latine, sans arrêt durant les années. Partout sur la carte du monde, une de leurs régions, guerre civile, invasion brutale, afin d'imposer la monopole. Politique et les intérêts du capital. La reine, voilà. Alors, petite interruption technique, je lève ma cagoule, je quitte mon casque, je me démilitarise un peu, c'est bien meilleur. Bon, ça va. Voilà. Donc, vous avez vécu la démilitarisation de Comaguer en direct. Bon, sonore. Bien. Et j'en reviens donc là-dessus. Et puis, à la fin, il formule une série de revendications pour la Grèce, puisque la Grèce, depuis les gouvernements Syriza et le gouvernement actuel, qui est un gouvernement de centre-droit traditionnel en Grèce, les intérêts impérialistes et militaires américains ont une grande place. Et il y a y compris aujourd'hui, c'est ce qu'il dit dans son discours, il y a des bombes atomiques états-uniennes sur le sol de la Grèce. Et des bases militaires, etc. Donc, il demande la fermeture de toute cette quincaillerie et de tous ces arsenals pour que la Grèce ne fasse pas partie des nouvelles guerres de l'Empire dans cette région-là du monde. On sait qu'il y en a plusieurs en cours. Voilà. Ce que je voulais dire sur le Hiroshima et Nagasaki. Et je dois parler, parce que de toute façon, la semaine s'y prête, du nucléaire français. Puisque vous savez que notre Emmanuel National a fait une entorse à ses vacances à Brégançon, et il est allé voir d'autres cieux et était allé mettre les pieds dans d'autres mers, je veux parler de l'océan Pacifique. Le voyage à Papeete, donc, était destiné à montrer l'intérêt de la France pour cette zone-là du monde et pour sa colonie tahitienne, et surtout de dire qu'effectivement, la France était consciente, c'est le minimum, qu'effectivement, la Polynésie avait rendu de grands services à la politique atomique française, puisque c'est là que se sont déroulés, de 1966 à 1996, 193 essais nucléaires, écoutez bien, 193 essais nucléaires, avec une puissance libérée égale à 2000 fois celle d'Hiroshima. Voilà ce qu'a fait la France dans les atolls du Pacifique. Alors ça a laissé des traces. Bon, il y a des atolls qui ont disparu ou qui sont impraticables, infréquentables, j'allais dire. Et puis, de plus en plus, alors bien que la vérité de la peine à faire sortir, on sait qu'il y a des, comme on dit aujourd'hui, c'est à la mode, des clusters de certains cancers liés au rayonnement radioactif qui ont été libérés par ces 193 explosions nucléaires. La France ne s'est pas fait que des amis. Alors je rappelle, 66, pourquoi les essais nucléaires dans le Pacifique? Parce qu'effectivement, l'Algérie, le FLN au pouvoir, avait dans la partie secrète des accords d'Évian accepté que pendant encore 4 ans, de 62 à 66, l'armée française continue ses essais nucléaires au Sahara. Et donc c'était même assez cocasse et même honteux pour le colonisateur. Des soldats français déguisés dans des uniformes algériens, dans des camions de l'armée algérienne, allaient s'installer sur les chantiers à Reagan et dans le sud Sahara. Parce qu'il ne fallait pas dire que c'était la France. Normalement, l'Algérie était indépendante. Mais en 1966, l'Algérie a dit on avait dit jusqu'en 1966, c'est fini. Et donc la France s'est repliée sur Papeete, sur la Polynésie, et donc elle a deux atolls pour y installer le centre, ce qu'on appelait le centre d'expérimentation du Pacifique, Saint-Expassi, comme on disait dans le vocabulaire militaire, pour y faire les 193 explosions dont je viens de parler. Alors il y a eu un départ, parce qu'il fallait monter en puissance, d'abord passer de la bomba à la bombache, et puis il y avait eu un arrêt dans le développement de la force nucléaire française, et c'est Chirac qui, dès son installation à l'Élysée, en 1995, quand il décide à la demande des militaires de refaire une campagne d'essai, alors que jusqu'à présent on avait considéré, et surtout les voisins, parce qu'il y a les Tahitiens, bon, qu'on peut considérer comme n'ayant pas droit à la parole, puisque colonisés, mais il y a quand même pas si loin des Néo-Zélandais, des Australiens, et puis des archipels indépendants, les Fidji, les Salomon, enfin des tas de choses, qui avaient dit c'est bien joli, mais vous venez faire vos saletés chez nous, on n'en veut pas. Hein, pourquoi vous ne les faites pas chez vous? Bien sûr, parce qu'on ne veut pas irradier la population de Rodez ou de Maubeuge, on préfère irradier des Polynésiens. Bon. Et donc, Chirac, à la demande de l'état-major, dit « on refait les derniers essais qui étaient destinés à monter en gamme, à arriver à avoir une bombache plus puissante encore que celle que la France détenait à l'époque ». Et donc, cette politique de Chirac, ces quelques derniers essais de 1996, ont beaucoup fait réagir tous les voisins. Et la France a eu très très mauvaise presse, en disant « ça suffisait maintenant, vous continuez à faire les saletés chez nous, etc. » Ça s'est très très mal passé diplomatiquement. Ce qu'a apparemment totalement oublié le petit Macron. Il est allé faire comme si on est chez nous, puis voilà, on est content de faire ce qu'on a fait, on a une belle force de frappe, c'est moi le patron, c'est moi qui ai le bouton, je suis content de moi. Alors on a affaire à un personnage totalement infantile. Moi j'ai pensé à ces familles bourgeoises ou même aristocratiques où on offrait des soldats de plomb aux petits-enfants. Et les soldats de plomb avec des beaux uniformes de l'époque, rouge, vert, toutes les couleurs et tout. Et puis, le jeune aristocrate, le jeune duc, le jeune prince, dans sa chambre, jouait à faire ça. Il rejouait la bataille d'Austerlitz, il rejouait d'autres choses comme ça. Bon, on a un peu affaire à ce genre d'infantilisme. C'est la République française dans l'état où elle est et que je déplore, vous l'avez compris, depuis longtemps. Voilà, tout ce qu'il y avait à dire là-dessus sur la chronique nucléaire. On en reparlera sans doute à d'autres occasions parce que cette menace nucléaire continue à être là, mais effectivement, il y a en face de la menace, c'est-à-dire, parce que je considère, je vais jusqu'au fond de ma pensée, que la menace nucléaire française ne fait peur à personne. Soit, effectivement, c'est un pays qui s'oppose à la politique française, je ne sais pas, le Venezuela, effectivement, avec deux bombes, on réduit le Venezuela à rien, mais ça, personne ne l'imagine, parce que ça aurait des conséquences mondiales dramatiques, ou bien ça fait peur à personne et c'est du gaspillage. C'est du gaspillage, et en fait, ça permet à l'armée française de dire « moi, je suis une armée impériale », et en fait, à ne faire que des horreurs minimalistes, colonialistes, dans le Sahel, ici et là. Alors, derrière cette capacité, cette affirmation de puissance, en fait, la France est un petit pays néocolonial qui a les mains sales tout le temps et partout. C'est pas parce qu'elle a la bombe atomique, c'est parce qu'en fait, sur le terrain, elle fait des choses. C'est ça qu'il faut rappeler. Bon, j'en viens au reste d'autres actualités, mais parlons un peu de ce qui se passe en mer de Chine, justement, et les activités de l'impérialisme états-unien. Alors, ce que Macron, et ça fait un lien, parce que ce que Macron est venu dire à Papeete, c'est « je fais partie de la politique indo-pacifique ». Alors, je reviens sur le terme, puisque, au fond, à l'initiative des États-Unis, en particulier depuis Obama, Trump a suivi et Biden continue, il y a une politique indo-pacifique, c'est-à-dire il y a une tentative d'encerclement de la Chine par les amis des États-Unis. Alors, amis plus ou moins contraints selon les cas, vous imaginez que le gouvernement japonais qui joue dans cette politique-là, il le fait avec peut-être une certaine difficulté, mais il a quand même 50 000 GI sur son sol. Il a une île qui s'appelle Okinawa, qui est occupée en permanence par les forces militaires américaines. Donc, il est relativement discret dans son opposition, même si les souvenirs d'Hiroshima et Nagasaki sont souvent là, dans les consciences collectives et populaires. Donc, le Japon joue dans la politique indo-pacifique. L'Australie, bien entendu, joue aussi dans la politique indo-pacifique. La Nouvelle-Zélande aussi, un peu moins fort, mais elle joue aussi. Et puis après, les États-Unis cherchent à se faire des alliés tout autour. Alors, le cas le plus intéressant est celui de l'Inde, que les États-Unis essayent de ramener dans leur camp, mais avec quand même une certaine difficulté. Parce que l'Inde, après avoir été très pro-soviétique, sans être du tout communiste, mais du temps de Nehru et de Gandhi, mais elle était plutôt dans le camp soviétique, au moins dans le camp des neutralistes. Et là, depuis la disparition de l'URSS, les États-Unis ont fait de gros efforts pour ramener l'Inde dans leur giron. Ça ne marche pas tout seul, c'est très compliqué. L'Inde, il y a des États avec des politiques différentes, il y a des États tenus par le Parti communiste, il y a des États tenus par des groupes de partis d'extrême droite. Enfin, ce n'est pas très simple. Mais on essaye quand même, les États-Unis essayent de les mettre dans le camp des amis. Et puis il y a les autres qui sont un peu entre les deux. Prenons le cas du Vietnam, qui n'a pas de relation amicale avec les États-Unis, encore qu'il faut souligner que le Vietnam, j'allais dire, on ne lui a pas posé la question comme ça, a pardonné aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il dit, de toute façon, nous les avons battus. Et donc c'est tout. On n'a rien à dire de plus. On n'a pas à dire que c'est des comme ci, des comme ça, à les insulter. On a gagné, c'est tout. Et dans leur langage à eux, il n'y a rien de pire. Qu'un États-Unien, et en particulier un chef d'état-major, entende quelqu'un qui est à la tête d'une autre armée et dit « De toute façon, taisez-vous, on vous a battu. » Ça, c'est insupportable. Et donc, les Vietnamiens sont assez décontractés par rapport aux États-Uniens. Et quand ils ont accueilli Obama, donc pendant son mandat, ils l'ont bien accueilli. Parce que, de toute façon, il dit « vous savez ce dont on est capable. Bon, c'est bien intégré dans votre tête. On est capable de vous battre. Alors, arrêtez, on n'est plus fâchés, on va faire des affaires maintenant, vous pouvez venir travailler ici, ça va. Hein. » Et n'oubliez pas, on est capable de ça. Souvenez-vous de Giap, souvenez-vous d'Ho Chi Minh, mettez ça là-bas. Ils ont ça là-bas, ne vous inquiétez pas. Bon. Donc il y a toute une série de pays qui disent, bon, on observe la situation, on connaît la position de la Chine aujourd'hui dans le monde, et donc on prend des distances, on ne s'affirme pas dans un camp ou dans un autre, mais on regarde quand même ce qui se passe du côté des États-Unis. Alors ce qu'il faut savoir, j'insiste là-dessus, parce que la politique entamée par Obama, qu'on appelait le pivot vers l'Asie, c'est-à-dire concentrer le gros de la capacité militaire, y compris nucléaire des États-Unis, dans cette zone-là du monde, a été poursuivi sans relâche par Trump et poursuivi dans les mêmes conditions et avec plus d'intensité encore par Biden. Pour ceux qui avaient des illusions sur ce changement-là, il n'a pas lieu. Alors, je vais vous donner quelques chiffres qui sont illustratifs de cette évolution. Je les ai sous les yeux, je les cherche. Alors, bon, d'abord, sur le contexte idéologique, les États-Unis déclarent, alors c'est sous Biden, nous sommes dans une situation d'extrême compétition avec la Chine. Nous voulons gagner le 21e siècle. Ça, c'est du Biden devant une commission du Congrès. Nous voulons gagner le 21e siècle. Ce n'est pas le 100 mètres aux Jeux Olympiques. On veut gagner, c'est-à-dire on veut écraser la totalité des 7 milliards de personnes sous notre domination. Ça, c'est très, très clairement dit et écrit. On va y compris installer une force militaire dans la Lune pour pouvoir bombarder plus facilement la Chine. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Oui, tout y est. Alors tout ça, bon, ça c'est le discours idéologique, c'est l'enveloppe de cette politique. Et puis après, il y a les faits. Alors il y a une intensification du contrôle de la mer de Chine, donc de tout l'entourage de la Chine. Et en gros, les Chinois ont observé ces derniers six mois, donc les six mois Biden, la multiplication des vols de surveillance sur la mer de Chine à raison de 5 par jour, c'est-à-dire les radars chinois, toute la journée, voient arriver des avions espions des États-Unis qui tournent à proximité de leur côte, qui photographient leurs navires de guerre en opération, qui font leur travail de renseignement. Multiplier les exemples, enfin, ça s'est plutôt intensifié qu'autre chose. J'ai toute une série de chiffres là-dessus. Ce qui est à noter aussi, c'est que la marine de guerre des États-Unis est quasiment en permanence dans le détroit de Taïwan. Vous savez la position de la Chine sur Taïwan. Bon, la marine de guerre des États-Unis est en permanence dans le détroit de Taïwan pour bien montrer que Taïwan, ce n'est pas la Chine. Donc, pour tirer la langue à la Chine, qui dit exactement le contraire, vous le savez. Et donc, elle est là pour montrer qu'effectivement, c'est elle qui décide. Alors, la Chine prend ça pour des menaces auxquelles elle est habituée, mais comme un signe de tension organisée. Et elle s'organise en conséquence, c'est-à-dire si, alors on va pointer du doigt le fait que la Chine a augmenté son budget militaire. Mais oui, mais quand tous les jours, vous avez des avions étrangers, des drones ou des avions autres qui viennent photographier votre territoire, surveillez vos manœuvres militaires, regardez vos usines, regardez vos bateaux de commerce et tout, vous dites, il y a quand même de quoi un peu s'inquiéter, vous prenez des mesures de protection. Comme ça. Je rappelle quand même que le budget militaire de la Chine est à peine au niveau du quart du budget militaire des États-Unis, pour une population quatre fois plus importante. Donc la dépense par tête est sensiblement inférieure, vous l'avez compris. Alors, sur la question de Taïwan, qui est effectivement le point chaud, l'opinion des États-Unis est en train d'être mise en condition pour dire si la Chine envahit Taïwan, on ripostera. Alors, les Chinois sont pas imbéciles, donc ils attendent que le fruit soit mûr, comme ils ont attendu que le fruit de Hong Kong soit mûr, hein, parce que les Chinois ont eu l'intelligence de dire à Mme Thatcher, quand elle arrivait au pouvoir avec toute sa capacité guerrière, souvenez-vous des Malouines quand même, et son arrogance, de dire, nous, on va négocier avec vous parce qu'un jour, vous allez nous rendre Hong Kong. Hong Kong, c'est un territoire chinois, et vous le rendrez. Ils ont dit ça à Thatcher quand elle est arrivée au pouvoir. Et ils ont réussi à lui faire signer un traité de restitution de Hong Kong qui fonctionne avec une période de transition, etc. Tout ça, vous connaissez. Comment ils ont fait? Ils n'ont pas poussé des cris, ils n'ont pas envoyé des soldats, ils n'ont pas mis des bombes dans Hong Kong. Ils ont reconnu le fait que Hong Kong, il y avait 6 ou 7 millions d'habitants à l'époque, avait besoin d'eau, avait besoin de fruits et de légumes, avait besoin de blé. Et effectivement, si la Chine ne fournissait pas, et si la Chine coupait l'eau, par exemple, Hong Kong n'avait plus d'eau potable. Et donc, petit à petit, un jour, ils sont arrivés en disant ben, « Si vous voulez vraiment vous fâcher, demain, vous allez mourir de faim. » Ah bon ? Alors, les Anglais n'ont rien dit, ils ne sont pas montés du tout. Ils ont dit « Ben, aussi. » Et donc, c'est comme ça que Hong Kong est retombé dans l'escarcelle de la Chine populaire. Et puis, ce qu'ils ont fait en même temps, c'est qu'ils ont mis en place, à côté de Hong Kong, une structure concurrente aussi puissante. C'est-à-dire que Hong Kong, au moment où Hong Kong est réintégré dans la République populaire de Chine, sous le statut administratif spécial, Hong Kong, c'est entre 10 et 15% du PIB de la Chine. Parce que c'est là où l'Occident investit, il y a des banques, il y a beaucoup de monde, il y a toute la technologie occidentale. Et donc ce que font les Chinois, c'est de dire, ben, on va créer plusieurs Hong Kong chez nous, hein, pour bien montrer que ça, on sait le faire aussi. Et ils vont créer, juste de l'autre côté de la ligne de démarcation, j'allais dire, un port et une ville nouvelle qui s'appelle Shenzhen, qui aujourd'hui a à peu près 10 millions d'habitants. Le port de Shenzhen, aujourd'hui, a un trafic plus important que celui de Hong Kong. Donc, ils ont cette façon de dire aux Hongkongais, vous pouvez nous boycotter, vous pouvez compliquer les choses, de toute façon, nous, on a la solution de rechange, donc arrêtez, c'est pas la peine de continuer sur ça. C'est ça, la politique chinoise, c'est-à-dire, la politique chinoise, c'est un jeu d'échecs où le joueur regarde le cinquième coup avant. Hein, alors que ils ont compris que l'Occident, c'était un joueur qui regardait que le coup d'après et le profit du coup d'après. C'est-à-dire combien ça fait sur les cours de Wall Street. Et comme ils ne sont pas capables, en Occident, d'aller au-delà, ben, des fois, ils perdent. Hein, parce que sinon, courte vue. Macron fait tout à fait partie du dispositif. Et je vais parler de la courte vue de Macron. Pas tant que ça, puisque j'y suis. On a parlé ces derniers temps, il y a eu un article dans le Daily Telegraph, parlant du vaccin AstraZeneca. Alors AstraZeneca, je vous rappelle la combinaison, donc AstraZeneca, un laboratoire mixte à capitaux britanniques et suédois, appuyé par l'université de Oxford, qui met au point un vaccin qui est le moins cher sur le marché mondial aujourd'hui, hein, et où il est décidé à la demande des universitaires d'Oxford, il y a des universitaires respectables, il dit on ne fait pas ça pour l'argent, on fait ça pour soigner. Donc, petite marge. Hein. D'abord, il n'est pas cher, il est à 2 $ la dose. Petite marge de bénéfice. Et le Daily Telegraph vient de publier un article qui mérite d'être lu, dans lequel il dit, en fait, Macron a joué un rôle décisif au sein de l'Union européenne pour boycotter, pour saboter l'utilisation par l'Union européenne du vaccin AstraZeneca. Et oui, parce que... Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il a favorisé l'autre, le Pfizer-BioNTech, le germano-italien, qui est aujourd'hui à 19 € la dose, voilà, près de 10 fois plus, qui va augmenter dans les jours qui viennent, va passer de 19 à 21. Merci, monsieur Pfizer, tout va bien. Et alors ça, c'est le premier effet. C'est-à-dire Pfizer est content, ça remplit les poches, et comme ça, son concurrent pas cher, à qui on a inventé des défauts, il paraissait que ça suscitait des caillots sanguins, etc. Bon, en fait, les études montrent que les caillots sanguins, il y en a eu aussi chez les vaccinés, etc. Donc, à des niveaux acceptables par le corps médical. Bon, donc, il s'agissait de torpiller économiquement AstraZeneca pour faire plaisir à Pfizer. Alors, pourquoi faire plaisir à Pfizer ? Dire Macron n'est pas actionnaire. Pas actionnaire, mais souvenez-vous, Emmanuel, avant d'être président de la République, était associé gérant de la banque Rothschild. Associé gérant, ça veut dire qu'on est, parmi les détenteurs de capitaux, on n'est pas un simple salarié. Et quand on mène une opération de fusion ou de rachat, les grosses opérations à coût de milliards de dollars, pour le compte de Pfizer qui rachète un laboratoire suisse, Emmanuel Macron, associé gérant de la banque Rothschild, qui a géré ce dossier. Un dossier d'une opération de l'ordre de 11 milliards de dollars. Après, on dit, ah bon, c'était lui le patron de cette opération. Ouais. Après, vous cherchez, on arrive à se renseigner, on a des gens, des banques et tout, il y a des publications économiques et tout, et ça rapporte ce genre de métier. Alors, on dit, bon, c'est pas terrible le taux de rémunération, c'est 1 pour 1000. Ah! Alors, 1 pour 1000, ça veut dire que celui qui a géré l'opération, donc c'est lui, là, c'est pas la banque Rothschild, c'est l'associé gérant Emmanuel Macron, il a touché 1 pour 1000 de 11 milliards de dollars. Et 11 millions de dollars, c'est rien. Mais, enfin, c'est des mauvaises habitudes qui se prennent comme ça. Pour un travail, ça n'a pas duré 5 ans, c'est une affaire d'une année. 11 millions de dollars pour le boulot d'un an, ça vaut le coup. Et puis, on garde des liens un peu affectueux avec Pfizer. Ça explique un peu cela. C'est pour bien comprendre la politique de gestion des vaccins. Donc, AstraZeneca est mis sur la touche, donc n'est pas... Et on connaît avec Pfizer. Dernière conséquence, ultime. Vous allez voir, ça c'est la surprise de la rentrée ou du début de l'année 2022. Le vaccin à 20 dollars ou 19 dollars Pfizer, la dose. Pour aujourd'hui, si vous faites vacciner, c'est gratuit. Vous ne payez rien. Mais quelqu'un a payé, parce que les 20 dollars, ils ne sont pas sortis de la poche de Macron. Ils sont sortis de la poche de la sécurité sociale. Évidemment, elle est là pour ça, mais c'est normal, la sécurité sociale paye les soins comme elle fait. Elle aurait payé 2 dollars d'AstraZeneca, ça aurait été mieux. Elle économisait 18 dollars à chaque vaccin. Bon, ça n'a pas été possible, politiquement possible. Mais ça veut dire, alors je vous annonce l'orage de l'année prochaine, ou du début ou de la fin de cette année, on va vous dire, vous savez qu'en novembre, décembre, le Parlement vote un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il établit le budget de la sécurité sociale. La sécurité sociale, elle va arriver en disant ben, l'épidémie, ça m'a coûté ça qui n'était pas prévu, hein, avec un déficit qu'on estime déjà aujourd'hui de l'ordre de 50 milliards de dollars. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, soit, effectivement, on donne de l'argent à la sécurité sociale, soit on fait ce qu'un certain Emmanuel Macron est capable de faire, je redoute qu'il le fasse, la sécurité sociale est en faillite, donnons tout au privé. Et qui attend dans les coulisses ? AXA, les copains et tout, bonne limonade, c'est pour nous. Merci pour le vaccin Pfizer. Bon, alors, je suis catastrophiste, mais je ne voudrais pas l'être. Mais c'est ça qui se passe, c'est ça qui est en préparation. Parce que Macron, il n'a pas changé d'idéologie en arrivant au pouvoir. Il utilise les moyens qu'il a, qui sont considérables, j'allais dire excessifs, pour mener ce genre de politique. La politique de destruction de la sécurité sociale, elle est à l'ordre du jour de la droite française depuis 15 ans ou 20. Le premier qui l'a exprimé, c'était Denis Kessler, qui était le numéro 2 du MEDEF à l'époque, qui a dit il faut détruire tous les acquis du Conseil national de la résistance. Ils l'ont dit, ils l'ont écrit, c'est leur politique. Donc effectivement, ils disent la sécurité sociale détruite, on prend la place, et donc nous on fait des bénéfices, on est coté en bourse, c'est AXA en particulier, qui est un des plus gros, mais il y en a d'autres, et la place est prise. Après, ceux qui ne pourront pas payer leurs cotisations chez AXA seront pris en charge par l'abbé Pierre, qui sera débordé, bien entendu, on l'a compris. Mais arrêtons d'être si tristes, parce que c'est quand même inquiétant. Mais il faut expliquer tout ça, parce que derrière l'espèce de masse d'informations qu'on a sur les vaccins, les et tout, on perd cet arrière-plan idéologique. Macron est aux ordres du grand capital international. Donc, il veut détruire tout ce qui prend de l'argent que le grand capital ne peut pas prendre. Donc, la destruction de la sécurité sociale était à l'ordre du jour. Et là, c'est effectivement un boulevard qui soit 50 milliards ou 60 milliards de déficit. C'est impossible. Alors, c'est plus un trou, c'est le gouffre de la sécurité sociale. C'est pas possible. possible, ou alors on augmente les impôts, peut-être, mais surtout, on va trouver d'autres solutions, et puis on va laisser une sécurité sociale. Alors, ils ne vont pas détruire ça du premier coup, je vais être cynique. Ils vont garder un minimum, une espèce de CMU pour les citoyens pauvres, et puis ceux qui pourront aller chez AXA, moyennant finance, iront, ils seront soignés, on sera sur le système des États-Unis. C'est ça le but de la manœuvre. Je l'annonce parce que ça mobilise, ça doit mobiliser tous les Français conscients. Hein, parce que ceux qui pourront aller chez AXA, il n'y en aura pas tant. Hein, parce que les hausses de salaire, on ne les voit pas venir. Les secteurs en crise, on va les voir venir de temps en temps, de plus en plus. Donc, c'est ça le menu. Hein. Donc, préparez-vous, le moment va être chaud et difficile et mettant en cause le système global. Après, je vais quand même être un peu plus rigolo parce que je vois Erika qui est accablée. Bon, alors, je vais vous parler de la... Ben, je vais vous parler d'une mort, mais vous connaissez peut-être ou vous ne connaissez pas Otelo de Carvalho. Il s'agit d'un général portugais qui a été le chef d'orchestre de la Révolution de 1974. Je remets en perspective. Le Portugal est le dernier pays européen qui a laissé ses colonies portugaises nombreuses se décoloniser. Alors, je rappelle le nombre, hein, les îles du Cap-Vert, la Guinée... l'Angola et le Mozambique. Un très bel empire colonial, à la limite même démesuré par rapport à la taille du petit Portugal. Mais c'était le premier empire colonial de l'histoire. Alors, c'était un empire colonial géré de façon assez simple. On fait des comptoirs, on achète des choses, on prend des esclaves en particulier. Il faut savoir que la traite négrière, sur en particulier la destination du Brésil et la zone des Caraïbes, c'est surtout fait à partir de l'Angola, beaucoup plus que la traite négrière des autres colonisateurs. Beaucoup plus depuis le Sénégal, Gorée, etc. Mais l'Angola a été le point d'émission donc de la grosse majorité des esclaves africains du Brésil, de cette zone-là d'Amérique du Sud. Bon. Donc, on sent bien que cet empire est vacillant, puis c'est le dernier en 1974, et puis il y a des jeunes portugais qui sont sous l'uniforme et qui vont passer des 28-30 mois dans la forêt à tirer sur des guerrilleros. Ça se passe plus ou moins bien, l'armée n'est pas très très riche, le pays lui-même n'est pas très très riche, etc. Et donc il va naître dans ce mouvement militaire une volonté de rupture avec le système, une dictature fascisante, même fasciste, d'arrêter le système colonial en même temps que de transformer l'économie portugaise et de libérer, de laisser partir les colonies d'Afrique. C'est là que ça se forme, cette conscience anticolonialiste, elle se forme dans la tête de soldats, jeunes officiers, alors ça ne va pas tout à fait jusqu'en haut de l'état-major, mais une bonne partie, même il y a des colonels, des commandants, qui disent il faut arrêter de tuer des Africains, on va nulle part, de toute façon on va perdre, on n'a pas les moyens et tout, et puis on ne veut plus faire ce métier. Pour ceux qui aiment la littérature, vous pouvez lire à ce sujet le très très beau roman de Antonio Lobo Antunes qui s'appelle Le cul de Judas, qui vous met dans la tête d'un jeune soldat portugais qui est en Angola et qui dit mais qu'est-ce que je fais là, tirer sur tout ce qui bouge, hein. Je perds mon temps, ma vie, j'ai honte de moi, etc. Et donc, ça fermente, on dit, il faut changer, il faut renverser cette dictature, il faut arrêter cette politique coloniale. Et c'est donc à l'intérieur de l'armée, une fraction de l'armée, pas toute l'armée, que se crée le mouvement des forces armées, MFA en abrégé, qui décide de faire tomber le régime Salazar. C'est plus Salazar qui est mort, mais il a un successeur. Ça se passe, alors tout ça est organisé, donc c'est organisé très sérieusement, par des militaires, en particulier donc Otelo de Carvalho dont je parle, pour d'abord détecter les secteurs de l'armée qui sont prêts à cette opération, effectuer une révolution sans violence, sans tuer personne, en prenant la place, et donner la parole au peuple qui n'a pas eu, puisqu'il est en dictature depuis 1920 et quelques. Ça va exactement se passer comme c'est prévu. Et il y a un film où on voit le dit Otelo de Carvalho arriver à l'endroit où donc il va donner le signal sur une radio catholique du départ de l'opération militaire qui va faire tomber la révolte. Il arrive avec son petit cartable, il se met au micro, comme je serai là, j'imagine, je rêve devant vous, devant le micro de Radio Galère. Je fais passer une chanson, et cette chanson, il se message à toutes les unités militaires qui sont dans le complot, puis c'est un complot, il y en a d'autres unités militaires qui ne sont pas dans le coup du tout. C'est le moment. Vous allez occuper les locaux de la police politique, vous allez occuper telle caserne, vous allez mettre des blindés devant tel et tel endroit, devant le siège du gouvernement, et c'est plié. Et c'est exactement comme ça que ça se passe. Alors c'est même un peu plus subtil que ça, parce qu'il y a deux chansons, on n'entendra que la deuxième. La première chanson, c'est, je crois, 22h55. C'est la première chanson qui dit aux unités militaires, donc qui sont prêtes, qui sont dans le complot, on démarre. Donc, allez vous mettre en place au lieu que vous devez contrôler. Et c'est une chanson un peu sirupeuse d'un chanteur à la mode et tout. Ça n'attire pas l'attention du régime. Et 3 heures plus tard, donc quand tous les locaux officiels sont contrôlés, qu'il ne s'est rien passé, donc tout le monde a été surpris, enfin les officiels ont été surpris, qu'on va entendre que la chanson qui déclenche la vraie révolution, qui annonce que la révolution a eu lieu, que le régime est renversé, on l'entend à 0 heure et des poussières. Et ça s'appelle Grandola Villa Morena et on va l'écouter.
Grandola Villa Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grandola Villa Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grandola Villa Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grandola Villa Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grandola a tua vontade, Grandola a tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira.
Voilà, Grandola Villa Morena. Alors pourquoi c'était une chanson qui marquait que le coup d'État avait réussi? Parce que Grandola Villa Morena, c'était une chanson qui avait été créée par le monsieur qui a écrit cette chanson, qui s'appelle Zeca Alonso, dans une communauté agricole de l'Alentejo, qui est la région du sud du Portugal, une communauté qui était organisée sur la base de l'égalité des travailleurs, une coopérative ouvrière, agricole plus exactement, et qui avait, Zeca Alfonso avait créé ce chant pour eux. Et il ne fallait pas le passer au moment où on démarrait le coup d'État, il fallait le passer à la fin pour dire que ça y était. Puisqu'elle dit Grandola Villa Morena, c'est le nom de cette petite ville de l'Alentejo, terre de fraternité. Et on dit, à tous les coins de rue, on rencontre un ami et tous les visages parlent d'égalité. Ça revient. C'est ça qu'elle dit, cette chanson. Et donc, il fallait la mettre au moment où le coup d'État était réussi. C'est-à-dire que l'ensemble des bâtiments officiels étaient neutralisés. Il y avait des chars d'assaut devant. Et effectivement, donc, ça se sait, parce que les chars d'assaut dans les rues, ça se voit. Et le lendemain matin, la population portugaise est dans la rue. Et les soldats sont sortis de leurs automitrailleuses ou de leurs tanks, ils sont assis sur les capots, ils ont des œillets à la main et ils distribuent des fleurs. C'est-à-dire qu'on a affaire, moi ça me touche encore, le souvenir que j'en ai, c'est-à-dire qu'on a affaire à des soldats qui sont là pour faire la paix avec le peuple. Donc c'est Ça, c'est un événement extraordinaire dans la vie. Et c'est la dernière révolution qui ait eu sur le sol de l'Europe. On est en 74, on est au mois d'avril 74. Alors, ça aura des suites. Alors, ça aura des suites en ce sens que pendant, en gros, 18 mois, il y aura une espèce de double pouvoir, c'est-à-dire que ce peuple qui est libéré, c'est-à-dire la police politique est enfermée, l'armée oppositionnelle est en prison, et les soldats du mouvement des forces armées défendent l'expression ouvrière dans les usines, dans les écoles, etc. Bon, le peuple respire, ça fait 20 ans qu'il étouffe. Hein. Il respire, il est content. Et du point de vue des gouvernants, parce qu'il y a quand même des bourgeois, il y a quand même des intérêts étrangers, je vais y revenir, on considère qu'à un moment donné, la récréation a un peu duré trop longtemps. Et donc, vers le mois d'octobre 1975, tout sera mis en place pour revenir dans des canaux plus classiques d'une démocratie représentative avec des élections. Mais pendant ces 18 mois, on a affaire à une espèce d'effervescence populaire sans une goutte de sang, c'est-à-dire la joie de la liberté retrouvée, de la capacité de s'exprimer sur ses conditions. Ça, c'est l'acquis de la Révolution. Et Otello de Carvalho, dont je parlais, y est pour beaucoup. Il faisait partie, il était l'expression de ces officiers qui voulaient ça. Il voulait ça. Et alors, il a, en le suivant, et on peut en parler un petit peu, il a essayé de voir quel modèle pourrait s'imposer pour gouverner. Il savait bien qu'il ne allait pas continuer comme ça pendant des années, mais qu'il fallait trouver un modèle politique pour le donner au Portugal. Et il a un peu cherché. Alors, je vais vous donner deux exemples, ça vous donnera la difficulté, enfin, ce qu'il avait en tête et ce qu'il cherchait. Il est allé voir d'un côté Olof Palme. Alors, Olof Palme, pour ceux qui se souviennent, c'était le premier ministre suédois, c'était l'archétype de la social-démocratie à la Scandinave, comme on l'a beaucoup rêvé à l'époque. Non, mais c'était ça. Bon, président de l'International socialiste, dont je dis, alors, quand même, je le dis, parce que quand François Mitterrand a voulu adhérer à l'International socialiste, que présidait Olof Palme, ce premier ministre suédois, Olof Palme a dit, bon, il n'est pas socialiste, mais on le prend, il vaut mieux qu'il soit avec nous que contre. Voilà. Voilà. Donc Olof Palme savait très bien à qui il avait affaire. Donc Carvalho, il va voir Olof Palme. Alors, qu'est-ce que c'est votre régime? Comment ça fonctionne, la social-démocratie à la suédoise? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il va voir Castro aussi. Alors là, on commence à s'inquiéter à Washington. Il va voir Castro. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'il nous emmène? Et effectivement, il va y avoir pendant cette période donc, d'effervescence populaire des gens qui font tout un travail souterrain, ou même politique, pour que ça rentre dans des canaux plus classiques de démocratie urbaine. On dit, OK, la dictature, c'est fini, mais enfin, au moins une bonne dictature bourgeoise, ça devrait pouvoir fonctionner. Alors, qui s'occupe de ça, de mettre en place la dictature bourgeoise? Ben, d'une part, un certain nombre d'officiers qui n'étaient pas pro-fascistes, mais qui trouvent que quand même, Carvalho, il est un peu trop à gauche. Hein. Et puis, un certain Valéry Giscard d'Estaing et son complice de l'époque dans cette affaire, qui s'appelle Helmut Schmidt. Helmut Schmidt était un social-démocrate, mais sur la question portugaise, l'avenir de la révolution portugaise s'est joué autant à Paris et à Berlin qu'à Lisbonne. À Lisbonne, il y avait les mouvements populaires, il y avait l'organisation, etc. Mais les décisions politiques ont été prises autant à Paris et à Berlin, et surtout à Washington. Car je termine là-dessus, car voyant que ça bougeait, parce que les services de renseignement ne sont quand même pas faits pour les imbéciles, car voyant que ça bougeait dans l'armée, les États-Unis avaient envoyé en poste à Babylone un ambassadeur qui s'appelait Frank Carlucci, qui deviendra après directeur général de la CIA, et qui donc a dit, attention, ils sont en train de passer chez l'ennemi. Parce qu'il y avait, dans le groupe des officiers qui entouraient Olédio de Carval, il y avait un officier qui était soit membre du Parti communiste, enfin un général, qui s'appelait Vasco Gonçalves. Et ces généraux et ces soldats qui venaient de la guerre coloniale, pour une partie, dans la mesure où ils avaient été jeunes adhérents au Parti communiste et tout, avaient été formés en URSS, c'était plutôt pro-soviétique. Donc ça se savait à la CIA. Donc il fallait absolument éviter. Alors, le Portugal, c'est quand même en plein milieu de l'Europe occidentale. Il y a eu une crainte, même une véritable terreur, trouille, que le Portugal passe à l'Est. Ça ne s'est pas fait, parce que tout a été fait pour que ça ne se passe pas. Et puis, il y a eu quelques interventions sur lesquelles je vais m'arrêter. Vous avez tous entendu parler d'un certain José Manuel Barroso, qui a depuis été président de la Commission européenne pendant une longue période, qui est maintenant un des dirigeants mondiaux de la banque Goldman Sachs. Et José Manuel Barroso, au moment de la révolution des œillets, il est un leader étudiant. Alors, il est effectivement contre la dictature, mais il est maoïste. Oui, Barroso, bah oui, ça n'en revient pas quand on voit le parcours après. En fait, il est maoïste par anticommunisme, c'est-à-dire il sait que dans les étudiants, le Parti communiste a de l'influence, il sait qu'il y a certains généraux et officiers comme Vasco Gonzalez qui sont des partis communistes, qui sont proches de la Russie soviétique, et donc il faut créer un courant de gauche, on comprend l'étiquette maoïste parce que ça, pour dire qu'il ne faut surtout pas que les communistes arrivent au pouvoir. Donc le rôle de Barroso est un rôle donc, alors, est-ce qu'il était déjà pointé par la CIA ou pas? J'en sais rien, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais enfin, son trajet politique est tout à fait clair. Il est là pour éviter l'influence communiste et le passage de Portugal hors de l'OTAN. Ah, je suis décalé, c'est ça, je suis revenu. Voilà. Alors, je rappelle ça parce que ce monsieur a eu beaucoup d'importance. Je rappelle que Barroso, outre les fonctions officielles, il a d'abord été Premier ministre portugais avant de devenir donc président de la Commission européenne, avant de devenir donc directeur, enfin même président de Goldman Sachs au niveau international. Il a eu un rôle tout à fait déterminant dans les rencontres des Açores. Alors, qu'est-ce que c'est que la rencontre des Açores? Ça se passe au mois de mars 2003. Et un certain Bush rencontre dans cette île qui est portugaise, donc c'est à l'archipel des Açores, un certain Barroso et un certain Emmanuel Aznar, premier ministre espagnol de droite, bien à droite. Et qu'est-ce qu'ils décident, eux, tous les trois? Que, ben, effectivement, il faut aller attaquer l'Irak. Et, ils n'ont pas dit qu'il faut détruire l'Irak, mais c'était comme ça, puisque l'Irak détenait des armes de destruction massive, puisque donc la propagande avait joué. Donc Barroso était bien là, dans son rôle d'agent de la politique des États-Unis, avec Aznar, pour dire qu'il faut bombarder l'Irak. Alors, on sait ce qu'il en est suivi, le bombardement de l'Irak, le million de morts irakiens, et puis ça continue, c'est pareil. Donc il a des responsabilités très très lourdes, et donc il a commencé ses fonctions d'agent de l'impérialisme états-unien au moment de la révolution des œillets. C'était compliqué, la révolution des œillets, puisque c'est un jeu complexe qui mettait en jeu non seulement le Portugal, sa décolonisation, les colonies, alors les militaires qui arrivent au pouvoir en Amérique, ils libèrent les colonies, et ça c'est fini, vous êtes libres. Hein. Ils libèrent y compris Macao, ils disent aux Chinois, c'est à vous, et même les Chinois ont dit, oh, écoute, on n'est pas pressé, ça va, il y a cinq minutes. Hein. Vous savez que Macao, c'était la deuxième donc, emprise coloniale sur le sol chinois, mais tout le reste a été libéré. Ça a été libéré, mais ça n'a pas voulu dire que ces pays-là ont pu avoir une indépendance, puisque aussitôt qu'ils ont été libérés, dans l'impérialisme occidental a essayé de susciter des mouvements de guérilla pour détruire les gens qui arrivaient au pouvoir avec la bénédiction des militaires portugais. Ça a donné une longue guerre civile en Angola, une assez longue guerre, un peu moins longue au Mozambique, mais on s'est beaucoup entretué entre Angolais et entre Mozambicains, entre ceux qui étaient à la tête du pays et ceux qui étaient financés par les États-Unis et qui voulaient prendre la place. Vous savez qu'en Angola, ça a duré plus de 25 ans et qu'il a fallu une intervention des Cubains, non pas pour faire le tri entre les deux, mais pour éviter que ce soit les Sud-Africains qui viennent mettre de l'ordre, les Sud-Africains de l'apartheid, qui viennent choisir les bons Angolais qui auraient dû prendre la tête de l'Angola. Ça fait partie de l'histoire contemporaine et c'est intéressant de s'en souvenir. Voilà, je regarde le temps qui me reste. Alors, c'était pour vous dire, d'une part, que demain soir, vous pourrez réécouter en rediffusion l'émission donc, de mercredi, du mercredi juillet, sur les 100 ans du Parti communiste chinois et de son activité à la tête du pays, enfin, avant qu'il soit à la tête, avant qu'ils prennent le pouvoir. On reprendra donc le cours des émissions la semaine prochaine, normalement. Et puis, des petites nouvelles intéressantes. Les BRICS. Alors, on ne parlait plus des BRICS. Hein, les BRICS, alors, c'est une association entre plusieurs États, donc Brésil, Russie, Inde, Afrique du Sud et Chine. Alors, ça pèse lourd quand même dans le monde, vu la population. Et puis, il y avait une espèce d'alliance de ces pays donc, qu'on appelait émergents à l'époque. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut plus trop parler de la Chine comme émergente. Elle a émergé, c'est tout à fait clair. Mais ça a fait partie donc, des opérations menées par la Chine après 2000 pour consolider un front qui accède petit à petit à une certaine autonomie par rapport à l'hégémonisme occidental. Et la question que je me posais, c'était le Brésil de Bolsonaro, il est là-dedans. Est-ce qu'il y fait encore quelque chose ou est-ce qu'il va en sortir? Et en fait, Bolsonaro n'en est pas sorti. Ce qui veut dire que dans l'appareil d'État, dans les grandes entreprises brésiliennes, il y a des très grosses entreprises au Brésil, dans le grand capital brésilien, on m'a dit non, l'intérêt d'avoir de bonnes relations économiques avec la Chine, avec l'Inde, etc., pour nous, c'est positif. Donc, ils ont laissé M. Bolsonaro à son délire fascisant sur toute une série d'autres sujets. Et en fait, ce que j'ai constaté, c'est que le Brésil n'a pas quitté les BRICS. Et les BRICS viennent de se réunir, leurs ministres des Affaires étrangères viennent de se réunir, et ils ont adopté un plan conjoint d'action contre le terrorisme. Pourquoi ? Alors, ils en sont plus ou moins victimes les uns et les autres. Ben, ils sont conscients que, dans la période actuelle, le mode d'opération de l'impérialisme états-unien est un mode d'opération qui passe principalement par le terrorisme. C'est-à-dire que ce n'est pas une intervention directe de troupes, c'est susciter ici et là, détruire un pays en semant le désordre pour 10, 15, 20 ans, jusqu'à ce qu'il s'écroule. Alors, à la mode libyenne, à la mode syrienne, à la mode tunisienne, je pense qu'on est à peu près dans la même situation. C'est ça. Et ça, ça a été analysé, c'est-à-dire l'affaiblissement de la puissance militaire et les craintes de la puissance militaire des États-Unis d'avoir un opposant militaire de taille dangereux fait qu'ils préfèrent recourir à ce système-là, donc d'agents qu'on arrose alors, au nom de diverses idéologies, mais l'important, c'est de trouver des gens qui se battent à votre, pour vous et que vous financez par la suite. Donc, les BRICS sont conscients de ça et viennent d'adopter un plan d'action commun contre le terrorisme en disant, ben, ils citent les pays où ils sont, ça les a fait réfléchir, Libye, Mali, Syrie, Afghanistan. Ils sont bien aperçus, que là, ces tentatives de destruction de pays, les faire les mettre dans des circonstances, des situations économiques et politiques telles qu'ils s'épuisent, ces pays sont fatigués, c'était une façon de les éliminer du champ politique et de les affaiblir. On en est au point, pardon, il me reste combien ? Deux minutes, ok. On en est au point où l'armée des États-Unis bombarde en ce moment les talibans en Afghanistan. Alors pourquoi ils bombardent les talibans ? Ben après avoir donné des armes aux talibans, leur avoir donné les moyens de détruire les hélicoptères et les avions de chasse soviétiques au moment de l'occupation de l'Afghanistan par les soviétiques, donc maintenant on bombarde les talibans parce qu'on ne voudrait pas qu'ils aient trop de place et surtout on ne voudrait pas que les talibans trouvent un modus vivendi avec leurs voisins qui est en train de s'établir. Les voisins s'appellent l'Inde, le Pakistan, la Russie et la Chine. Il voudrait dire que les États-Unis n'ont plus un mot à dire sur le sol afghan. C'est un gros échec pour eux. Voilà pour les BRICS. Et puis une dernière chose qui fera plaisir à Roselyne. Il s'est réuni un groupe de pays africains dont je ne connaissais pas l'existence, je l'avoue. C'est la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Alors, c'est très intéressant puisque ça rassemble non pas que des anciennes colonies françaises, mais d'anciennes colonies françaises et portugaises, qui donc travaillent ensemble. Et donc ça veut dire que puisqu'il y a une possibilité de faire travailler ensemble, je les cite, 11 pays, l'Angola dont j'ai parlé, le Burundi, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, le Congo, les deux Congos, le Rwanda, la Guinée équatoriale, le Gabon et Santo Tomé et Principe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces 11 pays-là sont en capacité de dire à leur tuteur colonial, le Portugal d'un côté et la France de l'autre, nous, quand on a des intérêts régionaux communs, eh bien, on se regroupe et on travaille ensemble. Et finalement, on se fiche. Et vos systèmes de regroupement à vous, votre tutelle coloniale, eh bien on passe par-dessus parce que nous, on travaille sur les intérêts régionaux pour la défense de nos peuples. Voilà. C'est ça que je voulais signaler parce que c'est un signe aussi de l'affaiblissement du colonialisme français et européen. Et ça veut dire que les pays africains sont en capacité de plus en plus de se prendre en charge sur leurs propres problèmes régionaux. C'est le cas de l'Afrique centrale. Voilà. Merci beaucoup, Erika. Merci aux auditeurs. On se retrouve. Alors, vous pouvez écouter donc l'émission sur le Parti communiste chinois demain soir à 20h. Et on se retrouve mardi prochain. Bonne semaine.